au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 3 novembre, lendemain d'élection. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On est sous la pluie présentement au cœur de Lanaudière avec 8 degrés. À l'émission aujourd'hui, il sera bien entendu beaucoup question de politique municipale et on va revenir sur les élections d'hier avec des entrevues avec des élus, entre autres Nicolas Dufour, maire réélu de Repentigny. Avec Pierre Paquette, tiens, on va parler de la circonscription de Terrebonne, du Bloc québécois là, qui se tourne maintenant vers la Cour suprême. Julie Paquet sera avec nous. Elle est vice-présidente affaires publiques chez Nouveau Monde Graphite de Saint-Michel-des-Saints, l'entreprise là, qui conclut plusieurs accords commerciaux. Également, scène de politique municipale avec nous, Eliane Neveu, nouvelle mairesse à Saint-Ambroise de Kildare, Gaëtan Gravel, maire réélu du côté de Ville-Saint-Gabriel. Mais tout d'abord, on se dirige vers Mascouche, où fort d'une victoire de plus de 9500 voix de majorité. Le maire Guillaume Tremblay s'enorgueillit, il faut le dire, là, du fait que 6 des 10 autres membres de son conseil municipal sont des femmes. Et lors d'un entretien avec François Morin un petit peu plus tôt, il a notamment indiqué qu'il compte joindre 20% d'électeurs insatisfaits.
Alors Guillaume Tremblay, donc en selle pour un autre mandat, un quatrième. Faut croire que les gens sont satisfaits du travail.
Ben écoute, oui, un quatrième mandat, mais aussi avec une équipe renouvelée. Donc, je suis pas content d'accueillir des hommes et des femmes. Puis je te dirais, cette élection-ci, c'est majoritairement composé de femmes. Donc ça, c'est une belle fierté pour la ville de Mascouche. Pour la première fois de son histoire, il va y avoir plus de femmes que d'hommes au conseil de ville.
Oui, justement, 6 sur 10, c'est donc dire qu'il y a quand même un certain engouement de la gent féminine là, pour la politique municipale.
On a travaillé fort pour en trouver.
Ceci étant dit, il y a des grandes priorités. D'abord, la première, ça va être la confection, j'imagine, du budget 2026.
Oui, tout à fait. Donc, la confection du budget, on va avoir aussi la sécurisation pour toutes les écoles. On a aussi la circulation locale, puis des grands projets comme le domaine seigneurial, le garage municipal. Disons qu'on ne manquera pas de job pour les 4 prochaines années.
Bon, ben, parlons un petit peu de circulation. Là, il y en a été question tout récemment dans l'actualité. Il y a certains projets là, qui tardent parce que, et ça, on s'en était parlé, il y a un petit peu trop de procédurites.
Tout à fait. Donc, vous avez vu qu'on a eu l'autorisation de la part du gouvernement du Québec pour 2027 pour faire la nouvelle bretelle. Le questionnement qu'on se posait, c'était pas normal que ça prenne 7-8 heures pour avoir des autorisations de la part du ministère de l'Environnement, du ministère des Transports. Maintenant que c'est dit, on va voir le verre à moitié plein. On a finalement eu l'autorisation. Donc, de notre côté, les plans de vie, tout est parti pour faire une nouvelle bretelle qui va vraiment désengorger, oui, l'axe du chemin des Anglais, mais aussi l'axe de la Boîte-et-Maçon. Donc, ça va désengorger notre ville, notre cœur de notre ville.
Pour ce qui est du manoir seigneurial, c'est un projet qu'on a été obligé de revoir de fond en comble parce qu'évidemment, les partenaires financiers au niveau des gouvernements sont pas nécessairement là. Qu'est-ce qui s'en vient là donc pour les prochains mois?
De notre côté, on a décidé que le projet du domaine seigneurial va être un projet mascouchois, donc à la hauteur des mascouchois qu'on va faire ensemble. Donc, je vous donne un exemple. Est-ce que le stationnement va être asphalté la première année? Possiblement non. On va le faire étape par étape tranquillement. Mais on va se faire un projet à la grandeur de Mascouche pour la grandeur, mais aussi à la hauteur de nos moyens.
Et au niveau des infrastructures municipales, de façon générale, ça fait plusieurs fois qu'il y a des demandes qui sont adressées au gouvernement. Et là, on va passer, je parle plus au président de l'Union des municipalités du Québec. Dans la dernière année de mandat du gouvernement Legault, j'imagine que la pression va être encore plus, je dirais pas plus pesante, là, mais oui.
Elle va être surtout plus pesante, mais de notre côté, il faut savoir que les villes, on est en train de se préparer. L'Union des municipalités a fait un rapport justement sur la fiscalité municipale. On va avoir les résultats dans quelques mois. Puis après ça, ben chacun des partis politiques va pouvoir prendre une position, action dans le cadre de la prochaine campagne électorale là, provinciale. De notre côté, soyez assurés que le monde municipal est mobilisé comme jamais, uni comme jamais. Puis je pense qu'on a eu tous et toutes des mandats assez clairs dans chacune des villes au Québec. Maintenant, ben, ça va être au gouvernement du Québec de venir à nos côtés pour nous accompagner dans nos défis.
Avant que j'oublie, lorsque vous êtes adressé à vos militants hier soir, vous avez mentionné qu'il y avait quand même 20% de l'électorat qui semblait pas satisfait. Alors, on va tenter de convaincre ces gens-là qu'on est là pour les bonnes raisons.
Ben, tout à fait. Puis, vous savez, la dernière élection, j'avais eu à peu près le même résultat. Donc, c'est toujours un électeur sur cinq qui, bon an, mal an, ben, n'est pas content des directions, des orientations, des décisions qu'on peut prendre. Mon objectif, dès aujourd'hui, c'est d'essayer de rallier ces gens-là, puis de m'assurer que le travail peut-être de plus, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là, essayer de travailler avec eux pour essayer de rendre un peu plus heureux dans notre ville.
Et est-ce qu'il y a des choses en terminant qu'on va tenter de changer dans les façons de faire pour justement là rallier le plus de gens possible?
Ben écoutez, on sort d'un grand exercice démocratique. On va prendre le temps avec les nouveaux élus de s'asseoir pour faire un peu un mea culpa de cette élection-là, essayer de comprendre un peu les enjeux. Je vous donne des exemples, c'est le service aux citoyens, il y a des choses qu'on a entendues de la part de notre population, des fois qui pourraient être un petit peu plus améliorées, les échéanciers qui sont donnés aux citoyens. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'on va prendre le temps d'avoir le topo des candidats pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on va améliorer au cours des quatre prochaines années en tant que tel au niveau du service aux citoyens.
C'était Guillaume Tremblay, maire réélu du côté de Mascouche avec une confortable majorité de 9 500 voix. Il est 16h13, un autre maire réélu dans un instant, Gaëtan Gravel du côté de Ville-Saint-Gabriel.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard. Va Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 Principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Un ongle incarné récalcitrant vous fait souffrir? La matricectomie permet d'extraire de façon permanente et sans douleur la bordure incarnée de l'ongle. Prenez rendez-vous 450-398-PIED. 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Alexis, Lavaltrie, Sainte-Julienne, Saint-Gabriel.
CFNJ 99.1-88.9.
Ici, la musique américaine, on le sent à Trump.
La Naudière PM. Politique municipale.
Il est 16h15 à Ville-Saint-Gabriel. Il y a le maire Gaëtan Gravel qui entreprend un sixième mandat. Il entend donc poursuivre son travail exactement de la même façon. Un entretien entre Gaëtan Gravel et le collègue François Morin.
Gaëtan Gravel, donc, un autre mandat, c'est quoi, c'est le cinquième?
Le sixième mandat.
Sixième mandat, c'est quand même pas rien. Oui. On a encore beaucoup le goût de la politique.
Ben, après 20 ans de vie politique, on connaît, c'est sûr, nos dossiers. On connaît aussi, notre réseau est quand même assez déployé sur le territoire. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai été préfet pendant 10 ans de la MEC d'Autry. Donc, j'ai appris, si on veut, au niveau de la politique un peu plus large, là, puis ça vient aider, si on veut, quand on a à travailler dans notre milieu, là.
Bon, Monsieur Gravel, outre le budget 2026 qu'on doit préparer, j'imagine qu'il y a d'importants dossiers là, à régler quand même relativement rapidement.
Ben, il y a plusieurs dossiers à régler, je vous dirais, dont l'eau potable. On sait qu'on a beaucoup de manganèse dans l'eau. Donc, on est à finaliser, si on veut, les derniers tests et les derniers résultats pour être capable de mettre la bonne filtration. Et puis en 2026, ça devrait être réglé parce qu'on a une réponse du ministère qui devrait nous accompagner là-dedans. Il y a aussi la construction de la nouvelle hôtel qu'on suit étroitement pour la construction. Et aussi, sur le territoire, le déploiement de nombreuses constructions, comme vous avez vu. Donc, on veut revoir un peu là, notre plan d'aménagement pour un peu plus cadrer, si on veut, ces constructions-là.
Et là, parlons-en du budget 2026. C'est sûr qu'on peut pas faire de promesses parce qu'évidemment, il faut analyser les chiffres. Mais est-ce que les contribuables devraient être relativement épargnés?
Ben moi, je vous dirais qu'avec les nouvelles constructions qu'on a, là, on n'a pas encore, parce qu'on devrait avoir une nouvelle révision de notre plan d'aménagement, pas notre plan, mais nouvelles constructions qui viennent de se construire. Donc, on n'a pas encore toutes les données. Mais moi, je pense que ça regarde bien pour au moins pas augmenter les taxes et regarder un peu ce qu'on peut faire de mieux avec le budget qu'on a. Et puis là, pour l'instant, on est à regarder tout ça, là.
On regarde la population, on s'en est déjà parlé, on regarde la population de Ville-Saint-Gabriel qui croît quand même assez rapidement. Là, est-ce qu'on croit être en mesure, justement parce qu'on parle d'eau potable, est-ce qu'on croit être en mesure de desservir cette population de façon adéquate, autant en services, en infrastructure qu'en services municipaux?
Ben, je vous dirais que actuellement, c'est sûr qu'on est à l'affût de tout ce qui se construit, c'est bien évident. Ben, on travaille avec nos ingénieurs et tout ça, mais on est toujours en train depuis plusieurs années, on a fait des travaux en amont qui nous aident énormément aujourd'hui. Et puis on a encore d'autres travaux qui s'en viennent au niveau des infras pour justement suffire à la demande. Parce que je vous dirais que notre usine est très performante. On a travaillé, ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille sur notre usine, parce qu'au départ, si on recule dans le temps, on voulait condamner notre usine. Nos ingénieurs nous avaient dit qu'il y avait trop d'argent à mettre sur notre usine. On voulait faire des étangs aérés, mais on a réussi à corriger le tout. Et puis, je vous dirais que notre usine aujourd'hui est très performante. Là, ce qu'il faut faire, c'est nos conduites qu'il faut... On sait les endroits où est-ce que nos conduites sont fragilisées, et puis c'est là qu'on travaille pour être capable de suffire à la demande.
Alors, ça m'ouvre la porte à une autre question. Est-ce qu'on va avoir les moyens de nos ambitions parce que le gouvernement du Québec est moins friand là, de verser de l'aide aux municipalités?
Ben, je vous dirais qu'actuellement, les programmes qui s'offrent à nous, on est quand même assez chanceux, je vous dirais, parce que regardez bien, là. On est un petit milieu quand même. On a une superbe aréna. On était capable d'aller chercher des sous pour la rénover. On a une école qui est en train de se construire, une école primaire. Donc, je pense qu'on n'a pas été trop... on a été assez privilégiés à ce niveau-là. Puis au niveau des différents programmes, ben on est à l'affût. Et puis pour l'instant, en tout cas, je vous dirais que ça va quand même assez bien à ce niveau-là.
Gaëtan Gravel, maire réélu de Ville-Saint-Gabriel, et c'est vrai que l'eau demeure une priorité du côté de Ville-Saint-Gabriel au niveau des conduites. Là, il y a de la rouille, c'est un problème ça, parce que essayez de laver une chemise blanche à Saint-Gabriel, là. Je parle en connaissance de cause, là. Des chances qu'elle sorte beige, peut-être même brune. Alors ça demeure une priorité là du côté de Ville-Saint-Gabriel. 16h20.
Lanaudière PM, politique municipale.
Ouais, on se transporte maintenant du côté de Saint-Ambroise de Kildare, nouvelle mairesse, des centaines de municipalités de Lanaudière, faut dire, et des membres de conseils municipaux. On fait le saut des gens qui étaient soit... à leur première expérience en politique ou des conseillers municipaux qui sont devenus maires. Et c'est le cas pour Éliane Neveu qui a remporté son pari hier du côté de Saint-Ambroise de Kildare pour devenir mairesse. Une entrevue qu'a réalisée avec elle un peu plus tôt François Morin.
Alors Éliane Neveu, donc une nouvelle réalité dans la vie, on devient mairesse. Comment on prend ça là? Une réaction à froid?
Ben une réaction à froid, on est content, excité, fébrile, et on a hâte de découvrir ce qui nous attend. Moi, j'ai, avec toutes mes bonnes intentions et tout mon bagage et mon expérience, j'ai très hâte de servir les citoyens.
Et le fait justement là d'y arriver avec pratiquement une nouvelle équipe là du côté de Saint-Ambroise de Kildare, la priorité qui s'en vient, évidemment, ce sera de prendre connaissance des finances de la municipalité et de préparer le prochain budget?
Oui, tout à fait. Le mois de novembre, c'est le mois dédié au budget. Donc, dès la semaine prochaine, on va s'atteler à la tâche des premières rencontres et de planifier le budget pour 2026 à la municipalité.
Trop tôt, évidemment, pour dire quelle tendance ça pourrait avoir.
Pour ce qui est du budget?
Oui, c'est ça.
Oui, tout à fait. Il est trop tôt encore. On va commencer nos séances de travail à partir de la semaine prochaine.
J'imagine qu'on a déjà quand même des dossiers dans le collimateur. Là. Il y a des priorités là, à régler du côté de la municipalité.
Oui, tout à fait. On a plusieurs dossiers qui sont en cours, qui sont à régler. Il faut qu'on règle beaucoup de choses, en fait. C'est sûr, il y a des affaires courantes et tout ça qui sont à gérer. Moi, je vais avoir beaucoup de rencontres, je pense, avec les citoyens concernés dans les prochaines semaines pour discuter de ces dossiers, justement, que parfois, en tant que conseillère, je n'étais pas au courant au complet ou qui n'étaient pas portés nécessairement à notre attention. Donc, moi, j'ai dit que je voulais être projet citoyen et tout ça. Donc, c'est ça que je vais m'atteler à la tâche dès la semaine prochaine, puisque la sermentation, vous savez, c'est 4 jours après les résultats officiels d'élection. Donc, je serai assermentée ce vendredi officiellement comme mairesse.
J'imagine quand même qu'il y a des choses qui vous ont été partagées là, durant la campagne électorale, qu'il y a des citoyens qui vous ont fait part de certaines préoccupations.
Oui, tout à fait. Dans ma campagne électorale, moi, j'ai vraiment rencontré beaucoup de citoyens. J'ai sillonné absolument toute la municipalité au complet. J'ai noté beaucoup de choses. J'ai discuté avec des gens. Ça a été très enrichissant et instructif comme rencontre avec les gens. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce qu'il y a même des gens qui ont des super bonnes idées sur notre territoire. Il y a plein de gens qui sont prêts à s'investir ou juste des fois à donner des idées, puis après ça, nous, on voit qu'est-ce qu'on fait avec. Mais je suis vraiment contente. On a quand même beaucoup de citoyens qui se sentent concernés par le bien commun. Donc, ça va me faire grand plaisir de travailler avec eux. Puis, je leur ai dit... Une de mes promesses électorales était d'être disponible au moins une journée par semaine au bureau municipal. Donc, évidemment, cette promesse se mettra en place là le plus rapidement possible pour pouvoir les accueillir puis continuer de les écouter puis partager ensemble nos idées puis nos préoccupations.
Et parmi les préoccupations, là, j'avance des hypothèses. Là, j'imagine qu'on a parlé des services municipaux, des services de l'infrastructure et des services directs aux citoyens.
Oui, exactement. On a parlé évidemment des infrastructures, évidemment des constructions, des plans d'urbanisme. On a parlé aussi de programmes, d'activités. Il y a beaucoup de sujets et de dossiers qui ont été amenés à plusieurs niveaux. Vous savez qu'on est toujours en attente de notre inventaire aussi pour nos maisons patrimoniales sur le territoire. Donc, dès qu'on va avoir ça en main, on va travailler sur ce dossier-là aussi. Donc, beaucoup de préoccupations assez variées, puis beaucoup de dossiers et de choses, en fait, les préoccupations dont deviendront des dossiers à s'occuper puis à gérer le plus rapidement et le mieux possible.
Dernière question, avec maintenant ce nouveau poste à la mairie, est-ce qu'on va devoir laisser les fêtes gourmandes?
Oui, totalement. Mon plan de match, moi, j'avais... j'avais planifié ma carrière, on savait déjà que la 20e édition était la dernière édition de la directrice générale. J'avais déjà annoncé cette nouvelle à mes proches. Maintenant, je suppose que, ben là, en plus, je vous le confirme. Les gens vont être au courant que, évidemment, je ne pourrais pas tenir la mairie et être une directrice générale à temps plein en même temps. Donc, on revisite un peu le choix de carrière. Pour ma part aussi, je suis la 3e génération sur la ferme laitière familiale. Donc, ce projet-là arrivait en même temps que le projet de mairie, en fait, dans le temps. Donc, pour moi, c'était le moment idéal de réorienter ma carrière et vraiment de faire un retour aux sources chez moi à Saint-Ambroise-de-Kildare. Donc, je suis vraiment contente de revenir littéralement chez moi, donc sur les terres familiales, puis de m'occuper de la mairie, donc du bien commun en plus de tous mes citoyens. Très contente.
Éliane Neveu, une femme fort dynamique qui était depuis nombre d'années à la tête des fêtes gourmandes. Elle est maintenant donc élue mairesse de Saint-Ambroise de Kildare. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine Est pour Charles de Gaulle, secteur... je remarque que ça devient plutôt dense, le secteur de Bourget. Mais pas de gros ralentissements en tant que tel, mis à part sur la voie de service, là où je vois que c'est très, très, très dense en ce moment. D'autre côté, d'Henri Bourassa, oui, ça va bien. Traversée facile vers la rive nord. Repentigny, c'est un peu dense. 40 Est, secteur du boulevard industriel. Par la suite, si je regarde... Oh, la 341, montée de l'Épiphanie entre la 40 et la rivière L'Assomption, là, c'est très lent en ce moment. Pont-le-Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord, c'est lourd depuis le boulevard Henri Bourassa et ça jusqu'au boulevard Les Vagues de l'autre côté de la rivière des Prairies en arrivant sur Laval. Par la suite, ouais, on ralentit le secteur de la Jonction avec la 440 et ça jusqu'au boulevard des Mille-Îles. Île-Saint-Jean, Terrebonne, oui, ça va bien. Pont-Sophie-Masson, très lent à l'approche là, sur environ 1,5 km. Par la suite, en arrivant sur Terrebonne, ouais, nombreux, mais quand même, ça roule. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est, dense depuis la montée des Pionniers. Direction ouest, là, oh, c'est compliqué. Là. C'est depuis la montée des Pionniers et ce jusqu'à la montée du Mai, là, où c'est passablement lent. Les nouvelles dans un instant avec Michel Arnois.
Chaque hiver, des familles réalisent que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, nous offrons des studios chaleureux avec repas et entretien ménager inclus. Visitez manoirlatourelle.com pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Vous êtes fait fort, mais les virus de la grippe et de la COVID-19 aussi. C'est important de vous faire vacciner, surtout si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 65 ans et plus. Dans ces cas, vous êtes plus à risque de complications graves face à ces virus. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, visitez québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
Il est 16h30, on va retrouver Michel Arnois aux actualités régionales. Michel, un bulletin entièrement consacré aux élections municipales, puisque les grandes chaînes nationales laissent de côté souvent les municipalités, les petites municipalités lanaudoises. Alors là, c'est le moment de faire le tour de notre terrain.
Et je sais que tu es une bête politique, alors j'ai choisi de faire ça dans ton émission. Je sais que t'aimes ça. Alors voilà.
Alors, on va débuter en parlant, tiens Michel, de la MRC de Joliette.
Oui, on va commencer parce qu'on savait déjà déjà, les élus sans opposition, c'est bon de le rappeler aux gens. Pierre-Luc Bellerose, le maire de Joliette. Moi, je salue Daniel Landreville et Richard Leduc, deux conseillers qui ont été réélus. Oui. Pas nommé toute la gang, mais eux autres, je les connais bien et oui. Je les aime bien. Alors, il faut bien que je le dise, c'est des amis.
Des préférences.
Notre-Dame de... Non, pas nécessairement, mais on a le droit d'avoir des amis. Notre-Dame de Lourdes, Pierre Guilbeault a été réélu. Notre-Dame des Prairies, Madame Dauphin, Suzanne. Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, le nouveau maire. Village de Saint-Pierre, Roland Charest. Maintenant, les élections qui avaient lieu hier. Crabtree, Étienne Dupuis par 75 voix sur Édouard Jeté. Sainte-Mélanie, Huguenot sur Rive-Blanc. Ça, c'est la ville de Louis Frein, là, qui avait fait la manchette. Annie Guimont, incidemment, qui se présentait comme conseillère, a été élue, Claude. Elle avait déposé un amendement. Là. Elle avait été en cours devant... Annie Guimont s'était présentée en cour supérieure et avait obtenu gain de cause là, là-bas contre le maire Fred. Fred qui s'est pas présenté. Marc Pelletier à Saint-Paul, 172 voix sur Mélanie Robichaud. Marc Pelletier qui devient le successeur d'Alain Bellemare.
Oui.
Mario Rondeau à Saint-Thomas bat le maire sortant, ça c'est quelque chose. André Champagne par 352 voix.
Probablement aussi le dossier des déchets là qui a pas aidé.
Ça a pas aidé.
Ouais, ouais.
Et à Saint-Ambroise de Kildare, Eliane Neveu, la directrice générale des fêtes gourmandes, qui avec une majorité de 387 voix, à la surprise de bien des gens, l'a emporté sur le maire sortant, Michel Dupuis. On va écouter Eliane Neveu qui est la directrice générale des fêtes gourmandes et qui devra céder son poste.
Je savais déjà que la 20e édition était la dernière édition de la directrice générale. J'avais déjà annoncé cette nouvelle à mes proches. Maintenant, je suppose que, ben là, en plus, je vous le confirme. On revisite un peu le choix de carrière. Pour ma part aussi, je suis la troisième génération sur la ferme laitière familiale. Donc, ce projet-là arrivait en même temps que le projet de mairie, en fait, dans le temps.
On va se diriger maintenant vers le nord de la région de la Naudière, dans la MRC de la Matawinie, Michel.
Oui, 8 municipalités qui étaient en élection sur les 15 de la MRC. Et ceux qui étaient en élection, c'était Chersey, Michel Joly, qui a été réélu. Entrelacs, Sophie Galarneau, réélu. À Notre-Dame-de-la-Mercy, on a eu un combat entre Robert Chicoine, qui a eu 203 votes de plus que Bertrand Taillefer. Donc, il a été élu maire. Rodden Raymond Rougeau, réélu. Pierre Charbonneau à Saint-Damien, réélu également. Joël Deslauriers, le sympathique Joël Deslauriers.
Saint-Donat.
Très dynamique à Saint-Donat. Il a été réélu. Mario Venn a été abattu, Jean Gouin. Mario Venn a eu 72,8% des votes.
Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une raclée là, pour M. Gouin. Là.
C'est toute une... Oui, vous avez bien raison. Martin Héroux a été réélu du côté de Saint-Émilie d'Énergie. Et ceux qui avaient été élus sans opposition, Saint-Alphonse Rodriguez, Charles-André Pagé, Simon Baudry à Saint-Combe, Maudrey Boisjolais à Saint-Félix-de-Valois, Sylvain Roberge à Saint-Jean-de-Mata, Carl Lacouvet à Saint-Zénon, Sylvie Roberge à Sainte-Béatrix et Émilie Boisvert à Sainte-Marceline-de-Kildare.
On passe maintenant à la MRC de Dautré.
Voilà qui est intéressant. Ici, on a 7 municipalités en élection hier. André Villeneuve par seulement 69 voix sur José Castonguay.
On rappelle qu'il a été aussi député,
provincial
de Parti québécois. Oui.
Christian Goulet, 194 voix sur Joël Latour à Lavaltrie. À Mandeville, Marc Desrochers a finalement gagné et Pascal Paco Bergeron a fini troisième.
Ah, ça, c'est le moteur.
Oui, c'est ça. Lui est fini loin derrière. Saint-Barthélemy, Jacques Patry a battu le maire sortant. Robert Sylvestre par seulement 70 voix, tenez-vous bien. Saint-Culbert, Richard Bellumeur a gagné, a été réélu. Ville-Saint-Gabriel, Gaétan Gravel pour un sixième mandat, c'est pas rien. Saint-Ignace de Loyola, Évelyne Latour. On se souvient là-bas. Louis-Vincent Barthes était maire, il s'était désisté, il se présentait pas, il s'est présenté comme conseiller, puis là, il est rentré comme conseiller. Bon. Alors, il passe de maire à conseiller.
Ben, coudonc.
C'est intéressant. Alors, voilà pour la MRC de Dautré.
Est-ce qu'on a Gaëtan Gravel? On peut écouter M. Gravel?
Ah ben oui, absolument. Son sixième mandat, il mérite bien.
Ben, après 20 ans de vie politique, on connaît, c'est sûr, nos dossiers. On connaît aussi, notre réseau est quand même assez déployé sur le territoire. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai été préfet pendant 10 ans de la MRC d'Autré. Donc, j'ai appris, si on veut, au niveau de la politique un peu plus large. Là, puis, ça vient aider.
Bon, on se rend maintenant dans la MRC de Montcalm. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y avait aussi une élection à la préfecture.
Oui, vous m'en posez une bonne, là, parce que j'ai pas préparé la préfecture. Je n'ai préparé que les maires. Mais je pense que...
M. Gilles Dubé a été défait.
Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est le gagnant qu'on cherche.
Oui, oui, c'est ça. J'ai un blanc de mémoire.
Écoutez, c'est pas très grave. Isabelle va nous le pardonner. Isabelle Auger à Saint-Laurentide, nouvelle mairesse. On se souviendra, il y a eu des reportages sur Mathieu Maisonneuve, le maire là, de Saint-Lin, qui avait quitté avec fracas la mairie. Il voulait pas vraiment là, continuer. Il avait eu une expérience très désagréable. Sainte-Julienne, Jean-Pierre Charon, Saint-Calixte, Michel Jasmin et Germain Majot à Saint-Esprit ont tous été réélus. Saint-Légory, Pierre-Luc Gaudreau, par 33 voix seulement sur Sophie Desrosiers à Saint-Légory, il a été élu maire. On va aller du côté de la MRC de l'Assomption, si vous le voulez bien,
le mon préfet
cher.
De la MRC de Montcalm.
Patrick Massé.
Voilà.
Hein? Vous voyez? Ça m'est revenu. Ça m'est revenu.
Oui, mais MRC de l'Assomption, oui.
Bon, ce matin, je me suis levé tôt, je pense que j'étais 4h30 ce matin. Oui. Et puis là, je me demandais pourquoi le collègue Régent Turgeon avait préparé seulement un reportage sur Repentigny. Mm. Et je me suis rendu compte que
ça s'est terminé très tard.
Mais oui, mais c'est parce que il y avait cinq municipalités seulement dans la MRC l'Assomption. Il y en a quatre qui ont été réélus sans opposition. Mm-hmm. Alors, il restait juste Nicolas Dufour avec son 10 334 de majorité sur Maxime Comtois.
Très fort.
Ça, c'est un des plus forts au Québec. On va écouter d'ailleurs Nicolas Dufour.
La vérité a triomphé sur la démagogie de nos adversaires. Les gens de Repentigny nous ont fait confiance majoritairement pour un autre mandat, même encore plus fort que le premier. Alors moi, je vois ça comme une certification du travail qu'on a fait les quatre dernières années, mais surtout une volonté de continuer à accélérer les changements à Repentigny les quatre prochaines.
Et maintenant, pour ce qui est de la MRC des Moulins, secteur Terrebonne-Mascouche.
Il n'y a que deux villes, mais pas les moindres. Ouais. Hein? Mascouche, Guillaume Tremblay, qui avec une majorité assez importante. Mais on va y revenir avant. Je vais parler de Terrebonne, Mathieu Traversy, qui était élu sans opposition.
Oui, assez surprenant pour une municipalité de cette dimension-là.
Oui, rarement on voit ça. Mm-hmm. Il y a toujours deux, trois, quatre candidats qui veulent bien se frotter et se côtoyer avec le maire sortant. Guillaume Tremblay, donc, à Mascouche, a une majorité, lui aussi, assez impressionnante, de 9574, Claude. Et il se battait contre trois opposants, alors il a été réélu. On va l'écouter, il est fier de ses candidates, M. Tremblay.
Vous pouvez vraiment être fier de votre équipe de candidats, mais surtout de candidates à l'élection 2025. Une équipe qui sera composée majoritairement de femmes pour l'élection.
Alors, mission accomplie, mon cher, on a fait le tour des municipalités.
Et quand même, un taux de participation assez intéressant là, pour une élection municipale.
Oui, on aurait pu s'attendre à pire. Au lendemain des élections municipales, force est de constater que les électeurs de la Naudière sont intéressés à ce qui se passe dans le coin de pays. Moi, ça me rassure. Ça me réjouit, d'ailleurs, de voir que le taux moyen de participation est pratiquement de l'ordre de 40% et dépasse celui de plusieurs municipalités au Québec.
Bon, l'envers de la médaille, on pouvait s'y attendre. Ce sont les municipalités où le maire a été élu sans opposition. Ouais. Il y avait des élections entre conseillers municipaux. Et là, on se situe dans des taux de 15, 17, 18%. Là. Ouais, c'est pas très, très fort de ce côté-là.
Où il y avait des maires déjà élus, ouais. ça a branlé dans le manche un peu.
On va écouter l'analyste
Mathieu Bélanger,
politique.
Notre analyste à ce sujet-là.
Évidemment, d'un point de vue de la saine démocratie, on voudrait que les taux de participation soient beaucoup plus élevés, mais on sait que la politique municipale est moins suivie souvent que ce qui se passe ailleurs, surtout quand il n'y a pas de gros scandales ou de grosses chicanes. Et donc, en ce sens-là, ben, du 40, du 50%, surtout quand on s'est plus approché du 50%, c'est très honorable et ça montre qu'il y a quand même une certaine vigueur, bon, relative, mais quand même au niveau là, de la politique municipale dans la Naudière.
Oh, voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. Merci, Michel Arnois.
Pas de trouble.
16h40.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est la Naudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ. 99.1, 88.9.
La Naudière PM. Affaires.
Bon, on va mettre un peu de côté les élections municipales pour parler de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints, là, qui a conclu plusieurs accords commerciaux concernant la production de graphite de phase 2 à son usine de Bécancour au centre du Québec. Il s'agit entre autres d'une entente de 7 ans avec le gouvernement du Canada et François Morin s'est entretenu avec la vice-présidente affaires publiques chez Nouveau Monde Graphite, Julie Paquette.
Julie Paquet de Nouveau Monde Graphite, encore des bonnes nouvelles concernant l'entreprise. On a signé, comme la semaine dernière, là, plus, si je comprends bien, on va essayer de démêler tout ça, plusieurs contrats qui font en sorte qu'on est vraiment là, sur la bonne voie.
Effectivement, on était à Toronto vendredi en marge des rencontres des ministres là, de l'énergie et de l'environnement du G7 et on a signé une entente majeure avec le gouvernement du Canada. Puis on en a profité aussi pour mettre à jour un peu là, nos différentes ententes commerciales, de sorte que aujourd'hui on se retrouve avec un portrait où l'essentiel, là, on est à 105 000 tonnes de notre production future de la mine Matawinie qui sont réservées avec des partenariats commerciaux. Donc, c'est des super bonnes nouvelles pour la suite.
Là, on parle donc évidemment là, de Panasonic et GM.
On a Panasonic, on a un fabricant d'anodes pour approvisionner GM. Donc, on change un peu la stratégie de ce côté-là. Praxis, qui est un distributeur international, là, vraiment avec un réseau très étendu au niveau du marché des réfractaires. Donc, les marchés un peu plus traditionnels, mais c'est quand même un marché de 45 milliards de dollars US. Là, donc, super intéressant pour nous. Et le gouvernement du Canada qui vient prendre quand même près d'un tiers de la production de la mine pour sécuriser son approvisionnement. On sait que c'est un enjeu en géopolitique avec la Chine là, qui vraiment contrôle le secteur du graphite et également pour réserver des volumes pour nos alliés dans le cadre du G7. Donc, ça se trouve à vraiment être un signal très stratégique que le gouvernement prend là pour sécuriser sa filière minérale, ses approvisionnements locaux, l'énergie, puis se positionner comme étant un joueur international. Donc, on est content de devenir le fournisseur de graphite du gouvernement canadien.
Une question à double volet à la Christian Bégin. Donc, selon l'échéancier ou selon les plans qui sont prévus, on démarre la production à la mine quand et du côté de Bécancour, quand également?
Ça, c'est la question du futur. Donc là, ce qu'on a avec ces ententes-là, dans le fond, ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller attacher le financement, le grand financement. L'exercice, là, est vraiment très... On est près du fil d'arrivée. On a fait beaucoup de travail dans les derniers mois avec les bailleurs de fonds pour venir dérisquer le projet avec les ententes commerciales. Bien là, on leur donne de la visibilité là, sur le plan d'affaires puis les perspectives commerciales. Donc, notre objectif, là, c'est que dans les prochains mois, on puisse aller déposer le dossier au niveau des comités de crédit des différents partenaires financiers pour lancer la construction. La mine, on en a pour à peu près 24 mois de construction, 6 mois de mise en service, donc ça va aller quand même assez vite. Puis Bécancour, ben là, on regarde, est-ce qu'on lance tout ça en même temps? Est-ce qu'on le fait en séquence? On est en train de mettre à jour un peu la stratégie de ce côté-là, étant donné les volumes qui fluctuent sur les premières commandes. Puis Panasonic, qui a beaucoup d'appétit, qui veut lancer la production nord-américaine. Donc, on essaie d'être flexible dans notre stratégie du côté de Bécancour.
Pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute, il y a une question qui peut peut-être se poser. Est-ce que les sauts d'humeur du président américain, ça a influencé justement la stratégie?
Bien, je pense que assurément, du côté du Nouveau Monde, on est bien centré sur notre plan d'affaires. La réalité, par contre, c'est que quand on regarde des partenaires comme Panasonic et GM, eux, ils vivent de plein fouet là, ce vent de face au niveau des politiques américaines. C'est un peu pour ça qu'on révise les ententes. Hein. Panasonic nous dit, ben, nous, on est toujours au rendez-vous. On veut développer une chaîne d'approvisionnement. Par contre, ben, la demande fluctue. Donc, on veut tout de suite lancer un premier volume. Puis après ça, on regardera pour la balance de l'entente. Fait que c'est pour ça qu'on révise un peu la séquence ou la stratégie du côté de Bécancour. Veut pas, c'est les réalités du marché, puis c'est les réalités de la dynamique, puis je pense qu'on est capable, avec notre portfolio de produits, puis là, les partenariats commerciaux qu'on annonce, de démontrer qu'il y a plein de perspectives pour le graphite dans plein de secteurs, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de la batterie, puis c'est effectivement un secteur qui a plein d'avenir au niveau des véhicules, mais aussi au niveau du stockage de l'énergie renouvelable, puis vraiment au niveau de l'énergie. Il y a beaucoup d'appétit, notamment au niveau des économies occidentales là, qui veulent pouvoir avoir une meilleure autonomie. Donc, Il y a de l'avenir de ce côté-là. Il y a de l'avenir au niveau des applications de défense, au niveau du secteur manufacturier aussi. Donc, c'est de réallouer nos volumes puis de s'assurer qu'on a une diversité de produits qui réduit, nous, notre risque d'affaires chez Nouveau Monde, peu importe la politique internationale. Fait que c'est un peu ce qu'on fait avec les grandes annonces et les grandes ententes là, qu'on a dévoilées vendredi.
En terminant, je veux quand même me permettre un constat et peut-être obtenir un petit commentaire là-dessus, c'est que dans 2 ans, le gouvernement américain risque fort de changer.
Ben oui, en effet. Puis, Nouveau Monde, dans le fond, on va être au rendez-vous puis on va être prêt avec les partenariats commerciaux qu'on a là, mais également avec un autre gisement sur la Côte-Nord qui pourrait être développé pour desservir les marchés en croissance. Donc, l'idée, c'est d'y aller étape par étape puis de s'assurer qu'on fait un développement qui est discipliné et responsable. On veut entrer sur le marché avec succès. On veut pas se casser les dents. C'est un peu l'exercice là, qu'on fait aujourd'hui.
Bon, voilà, c'était Julie Paquette. Elle est vice-présidente affaires publiques chez Nouveau Monde Graffiti. Il est à 16h47. Dans un instant, Pierre Paquette.
Devenez membre à vie au coût de 20$ à la coopérative funéraire de Matawini-Montcalm et obtenez 10% de rabais sur tous nos produits et services. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, 450-886-3763 et 450-839-3450.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5000$ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie, Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule, Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin, Boucherie 4 Saisons, et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Je vous invite à être à l'écoute des après-midi de Claudine pour découvrir un concours exclusif aux membres de CFNJ en collaboration avec Son X Plus Joliette. Je ne vous en dis pas plus, soyez avec moi, soyez à l'écoute du lundi au jeudi de 13h à 16h dans les après-midi de Claudine pour tout savoir sur le concours Son X Plus Joliette, exclusif aux membres de CFNJ.
Vous êtes fait fort, mais les virus de la grippe et de la COVID-19 aussi. C'est important de vous faire vacciner, surtout si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 65 ans et plus. Dans ces cas, vous êtes plus à risque de complications graves face à ces virus. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, visitez québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
Hey Simon, Luc est tombé de l'échafaudage. Viens, j'ai besoin d'aide.
C'est parce que je suis vraiment dans le jus.
Il y a du sang partout, vite!
Écoute, je le connais bien cet échafaudage-là, pis c'est pas son genre de blesser le monde. Faudrait peut-être que Luc arrête de dramatiser.
Ben là, faut faire quelque chose.
Bah, j'aime mieux pas m'en mêler. C'est pas vraiment de mes affaires.
Si on réagissait face aux blessures physiques comme on le fait trop souvent face aux blessures psychologiques, on verrait à quel point c'est absurde. Ensemble, agissons pour que nos milieux de travail soient sains pour tous. Un message de la CNESST.
Avec leur musique des Appalaches et de la Louisiane, Nadine et Samy sont en spectacle au Crapaud le samedi 8 novembre. Les billets sont disponibles en ligne au crapaud.qc.ca.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre Paquette.
Oui, bonjour Claude. Ça va?
Ben ça va bien, Pierre. Oui. On laisse de côté la politique municipale là, le temps de parler du Bloc québécois et de Nathalie Sinclair-Desgagnés, qui était candidate du Bloc, qui était députée du Bloc dans Terrebonne, qui a été défaite, faut le rappeler, au mois d'avril dernier par une seule voix. Et là, elle se tourne vers la Cour suprême.
Oui, parce que là, quand même, par une seule voix, à cause d'une erreur de Élections Canada, d'un employé d'Élections Canada qui avait mis son code postal personnel que le code postal du bureau d'Élections Canada.
Et ça, ça a été le cas sur plusieurs bulletins de vote, là.
Ça se peut, mais j'en ai entendu parler que d'un, mais de toute façon, un, c'est déjà trop.
Ouais.
Et peu importe même de quel parti il s'agirait, c'est tout à fait le même problème. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est une citoyenne. Elle a été privée de son droit de vote par Élections Canada. Là. C'est pas quelque chose qui est extérieur à Élections Canada.
Si c'était le cas d'une seule citoyenne, on serait arrivé kiff-kiff au niveau des résultats. Et là, étant donné qu'il manquait ce bulletin-là, ben c'est peut-être ce qui a fait que Tatiana Auguste, la libérale, a passé. Elle est maintenant députée de la circonscription de Terrebonne. Alors là, Nathalie Sinclair Desgagnés veut amener tout ça, parce qu'il faut dire que la Cour supérieure a rejeté la semaine passée la demande du Bloc de tenir un autre scrutin. Alors, Nathalie Sinclair Desgagnés veut amener ça maintenant en Cour suprême et avec une campagne de sociofinancement. On va écouter rapidement Nathalie Sinclair Desgagnés là-dessus.
Est-ce qu'on peut laisser que l'institution qui est en charge du bien fondé, du bon déroulement des élections puisse faire des erreurs? Et puisque ce n'est pas des actes criminels, l'élection ne va pas être reprise. Est-ce que vous imaginez les dérives potentielles de ce genre de cas? Ça veut dire que prochaines élections, il y a des boîtes qui vont être oubliées, mais ça va être des erreurs, c'est pas grave.
Et elle a retenu les services de l'avocat Julius Gray, très connu pour des causes d'ailleurs en Cour suprême. On peut penser à la cause de Mike Ward, entre autres.
Oui, ben c'est ça. Je pense qu'ils ont choisi Julius Gray, pas tellement à cause de ses convictions politiques, mais plus par son expérience devant la Cour suprême, parce que ça va être extrêmement délicat à prouver, parce que là, évidemment, en Cour supérieure du Québec, on a maintenu les résultats en disant finalement, comme Nathalie Sinclair Desgagnés le mentionnait, l'erreur de l'employé n'était pas basé sur une volonté de frauder ou de mauvaises intentions, mais le résultat est le même. Donc, ce que veut montrer, j'imagine, Julius Gray et puis le Bloc québécois, c'est que l'intégrité du processus électoral a été affectée par cette erreur-là. Et donc, on doit reprendre, d'autant plus que le résultat a été d'une voix de différence. On veut montrer que l'intégrité du processus électoral a été bafoué et que donc on doit reprendre l'élection, d'autant plus que ça a affecté le résultat de l'élection. Encore une fois, là, il n'y a eu qu'une voix de différence. Il y avait eu égalité, mais on aurait repris l'élection de toute façon. Ouais. Alors, je pense que c'est une cause qui vaut la peine. Je suis un peu surpris qu'on fasse une campagne de sociofinancement. J'aurais pensé que le Bloc aurait payé M. Gray.
Une pointure comme Julius Gray, là, ça coûte cher, faut le payer. Ben, campagne de sociofinancement de 40 000 $ là, on cherche 40 000 $
là. Oui, ben c'est ça. Alors, je pense que peut-être aussi ce que veut montrer Nathalie Sinclair Desgagnés, c'est qu'il y a un appui populaire à sa contestation. Et je pense que c'est tout à fait valable comme démarche. Maintenant, je suis pas sûr que la Cour suprême va renverser la décision de la Cour supérieure, parce que la loi dit bien, et je pense que la Cour suprême a déjà statué là-dessus, que le régime électoral, le système électoral ne peut pas être parfait. Donc, il peut y avoir des erreurs, mais dans ce cas-ci, c'est l'intégrité même du processus électoral qui a été affectée. Et je pense que ce que Julius Gray va pouvoir démontrer, c'est ça, c'est que c'est pas une erreur banale, là, tu sais, genre, je sais pas, moi, on a oublié de vérifier telle adresse ou tel papier d'une personne qui est venue voter puis qui aurait peut-être pas eu le droit. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une erreur d'Élections Canada, et donc l'intégrité du processus a été affectée, et donc on doit reprendre l'élection, d'autant plus, encore une fois, que le résultat a été affecté, ou le résultat a basculé, a été déterminé par cette erreur-là, encore une fois, une seule voix de différence.
Depuis le départ,
mais ça sera pas facile.
Depuis le départ dans cette histoire-là, au mois d'avril le dernier, Pierre, moi je me pose des questions sur la compétence peut-être des employés là, chez Élections Canada. C'est parce qu'on peut, on prend un peu n'importe qui, là.
Non, mais ça, je dois dire que on a vécu des choses assez particulières hier, là, lors des élections municipales.
Ouais.
Alors, je m'en doute un peu, pas tant la compétence que la formation qui est donnée au personnel.
Oui.
Je vous donne un exemple, là, c'est vraiment
rapidement
anecdotique. Hier, à Témiscouata-sur-le-Lac, la directrice des élections municipales a donné le résultat final de l'élection sans jamais donner d'étape à la fin sur son Facebook. Pas sur le
DGEQ.
Le site du directeur des élections. Alors, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Ouais. Je pense que vraiment, il faut s'assurer qu'il y ait une formation minimale.
Ben, formation, puis compétences.
Élections Canada, Élections Québec, ouais. Et puis à tous les niveaux, lorsqu'il y a des élections.
J'ai l'impression, des fois, on manque tellement d'employés là, chez Élections Canada qu'on recrute n'importe qui sur la rue. Là.
C'est vrai, mais on peut quand même les former.
Merci, Pierre.
À mercredi.
Salut.
Lanaudière PM, politique municipale.
Ouais, on s'en va dans le sud de la région de Lanaudière, dans les grands centres du sud, d'ailleurs. C'est sans grande surprise que Guillaume Tremblay, à Mascouche, a été réélu. Nicolas Dufour, du côté de Repentigny, réélu avec 69,4% des voix. Et Régent Turgeon a eu l'occasion de rencontrer Nicolas Dufour.
Très serein et heureux parce que ce soir, la vérité a triomphé sur la démagogie de nos adversaires. Les gens de Repentigny nous ont fait confiance majoritairement pour un autre mandat, même encore plus fort que le premier. Alors moi, je vois ça comme une certification du travail qu'on a fait les quatre dernières années, mais surtout une volonté de continuer à accélérer les changements à Repentigny les quatre prochaines.
L'opposition semble avoir fait campagne sur le fameux projet Aventia. Beaucoup de désinformation. Vous pensez que c'était le cœur de cette campagne-là?
Ah, totalement. Ça a été un référendum sur Aventia. Eux-mêmes l'ont annoncé. Puis aujourd'hui, le résultat des courses sont assez clairs. Les gens veulent qu'on attire des entreprises à Repentigny, qu'on requalifie le parc industriel et qu'on crée de l'économie à Repentigny puis des nouveaux revenus. Alors moi, je suis très heureux de la sanction que j'ai eue des citoyens de Repentigny. Le message est clair.
Au moment où on se parle, on semble se diriger vers un balayage. Là. Tous vos conseillers seraient réélus.
Bien, écoutez, moi, je pense que c'est juste la démonstration du beau travail qu'on a fait pendant 4 ans. On avait aussi 4 nouveaux candidats qui vont être des grandes recrues, qui vont travailler très proche des citoyens. Alors, moi, tout ce que je vois, là, c'est une réussite sur toute la ligne. Les citoyens nous ont fait confiance et on va respecter leur confiance les 4 prochaines années.
La confiance était au rendez-vous sur la base de l'expérience?
Ah, bien, plus que ça, là, sur les rencontres qu'on faisait avec les citoyens, on voyait qu'il y avait un taux de satisfaction face au travail qu'on a fait les dernières années. Alors moi, tout le long de la campagne électorale, j'ai été très confiant. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé très fort. Quand on travaille fort, les résultats sont là.
Est-ce que le fameux incident du doigt d'honneur aurait joué en votre faveur?
Ça, je vais laisser les analystes répondre.
À partir de demain, on fait quoi?
À partir de dès demain, je commence à continuer à appeler des industriels pour qu'ils viennent s'établir à Repentigny. Il y a beaucoup de gens d'affaires qui attendaient notre réélection pour pouvoir annoncer des projets. Donc, dans les prochaines semaines, il va y avoir des annonces au niveau économique très intéressantes et profitables pour la ville de Repentigny et ses citoyens.
Un dossier qui traîne et dont on a entendu parler, c'est l'avènement d'un quartier universitaire à Repentigny ou Galerie Rive-Nord. Qu'est-ce qu'il y en est de ça?
Bien là, maintenant, le gouvernement du Québec vient de comprendre le message de la population. En veut un, il va falloir qu'il livre la marchandise.
Et la fameuse ceinture verte à Le Gardeur, on fait quoi? Vous avez prononcé un moratoire là-dessus?
Oui, on va continuer à travailler avec les citoyens du quartier pour voir les possibilités. Et déjà, là, on va avoir un plan d'urbanisme là, qui va être déposé d'ici février. Les citoyens vont avoir des annonces rapidement concernant la ceinture verte.
Au niveau de la MRC, la plupart des maires reviennent. Ça aussi, c'est important pour vous?
Oui, parce qu'on travaillait déjà en étroite collaboration avec Charlemagne, l'Épiphanie, l'Assomption, Saint-Sulpice. Donc, on va continuer à travailler très fort là, ensemble pour avoir une MRC vivante.
Assermentation, ça s'en vient, ça aussi?
Vendredi pour le moment.
On est optimiste, on est content, heureux pour la suite.
Vraiment, là, honnêtement, là, on a travaillé fort les 4 dernières années. Puis aujourd'hui, j'ai mon bulletin, puis je suis content de mon bulletin.
Ben voilà, c'était Nicolas Dufour, maire réélu du côté de Repentigny. Vous avez compris que Régent Turgeon l'a rencontré là, hier en fin de soirée. Il est 16h59. Je salue et remercie les collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, Michel Arnois, Pierre Paquette, ainsi que Régent Turgeon, ici Claude Fournel. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée. On est là demain, 16h. Nicolas Bellemare sera là dans un instant pour le 5 à 7 trad de CFNJ. Bye-bye, à demain.